إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc la lecture et l'étude du livre de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, intitulé Masail al-Jahiliya, dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné un certain nombre de préceptes parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, de la période pré-islamique, au sujet desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé aux gens de la Jahiliya et que l'islam est venu abolir. Donc on va voir dans l'assise de ce soir un certain nombre de préceptes qui sont des préceptes, comme vous allez le voir, qui sont pour la plupart encore présents au sein de cette communauté, wallahu al-musta'an. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de nous éloigner de ces préceptes qui, comme on l'a dit, font partie des choses blâmables et qui sont interdites dans notre noble religion. Le cheikh, il dit donc, rahimahullah, المسائل السابعة والثامنة والتاسعة والثمانون والتسعون الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت. Les préceptes 87, 88, 89 et 90 parmi les préceptes des gens de la Jahiliya. Ce sont le fait de se vanter de ses ancêtres, de critiquer la lignée ou la généalogie, de demander la pluie aux astres, et de se lamenter sur les morts. Donc ces quatre préceptes, ils font partie des préceptes des gens de la Jahiliya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith que ces préceptes seraient toujours présents au sein de sa communauté. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a quatre choses présentes dans ma communauté qui font partie des préceptes de la Jahiliya et qu'ils ne délaisseront pas. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, se vanter de ses ancêtres, critiquer la lignée, demander la pluie aux astres et se lamenter sur les morts. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Donc le fait de se vanter de ses ancêtres, c'est le fait de se vanter de leur noblesse, de la noblesse de sa famille, de la noblesse de ses parents, ses grands-parents, et ainsi de suite. Et tout ceci fait partie de la religion des gens de la Jahiliya. En effet, les gens de la Jahiliya avaient l'habitude de se réunir après le pèlerinage, à Mina, ou auprès de la Kaaba, et au lieu de faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vantaient la gloire de leurs ancêtres et se rappelaient de leurs mérites. Allah subhanahu wa ta'ala a d'ailleurs dit à ce sujet, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Et quand vous aurez achevé vos rites, c'est-à-dire les rites du pèlerinage, alors faites le rappel d'Allah comme vous vous rappelez de vos pères, et plus ardemment encore. Donc ce qui est obligatoire pour le musulman, c'est de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. De se rappeler des bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé. Et qu'à la noblesse de ses parents ou de ses ancêtres, la noblesse de sa famille et leur rang éminent, tout ceci fait partie à la base des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Donc au lieu de vanter la gloire de ses ancêtres, le musulman qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est celui qui leur a accordé cette noblesse. La deuxième chose, c'est le fait de critiquer la généalogie, la lignée d'une personne. Comme le fait de dire, celui-ci, il n'a pas d'origine. Ou alors, celui-ci, sa famille n'est pas noble. Il est issu d'une famille méprisable. Ou d'autres paroles encore. Tout ceci sont des formes de mépris qui sont interdites en islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son livre, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus. Pourquoi? Afin que vous vous reconnaissiez. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Et certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est qui? C'est le plus pieux. Donc la différence entre les gens, c'est la piété. Ce n'est pas les origines, ce n'est pas la lignée, Ce n'est pas la couleur de peau, ce n'est pas la richesse ou la pauvreté, mais ce qui fait la différence entre les gens, c'est quoi? C'est leur piété. Plus la personne sera pieuse, plus elle aura un rang éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a aucune raison pour la personne de se vanter de sa lignée. Car ce qui fait ta noblesse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est si tu es pieux ou non. Et non pas si tu as une bonne lignée. Car celui qui a une bonne lignée, qui est issu d'une bonne famille, qui a de nobles ancêtres, s'il n'est pas pieux, qui ne fait pas preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, en quoi sa lignée lui sera utile? Elle ne lui sera d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala selon le sens, celui dont les œuvres sont mauvaises. Alors il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa lignée ne le fera pas aller de l'avant, c'est-à-dire qu'elle ne lui sera d'aucune utilité. Il n'est donc pas utile pour la personne d'être un arabe, ou d'être du peuple de Quraysh, ou d'être issu de Banu Hashim, ou d'être un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si de son côté il n'est pas pieux, qu'il ne fait pas d'œuvres pieuses, qu'il ne se rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala par des bonnes actions, alors sa lignée ne lui sera d'aucune utilité. Donc on voit la sottise des personnes qui se méprisent ou se respectent en fonction de leur lignée ou en fonction de leurs origines. Et ceci provient d'un manque de piété, et plus précisément d'un manque de concrétisation du principe de l'alliance et du désaveu en islam. Car comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, l'alliance et le désaveu en islam, ils se font en fonction de quoi? En fonction de la religion. Plus la personne manifeste de la piété, plus la personne manifeste des bonnes œuvres, plus tu vas t'allier à elle et plus tu vas l'aimer. Et inversement, plus les œuvres d'une personne vont être mauvaises, plus il va faire de péché, plus tu vas la détester. Et ceci sans tenir compte de ses origines, de sa couleur de peau, de son rang social et ainsi de suite. Tu ne tiens compte de rien de cela. Mais la seule chose qui est prise en compte, c'est la piété de la personne. Ensuite, la troisième chose qu'il a mentionnée ici, c'est le fait de demander la pluie aux astres, qui signifie en réalité le fait de croire que la pluie, elle descend en fonction de l'apparition ou la disparition d'un astre. Et ceci fait partie de la religion des gens de la Jahiliya. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait descendre la pluie quand il le veut. Il dit dans son noble livre, subhanahu wa ta'ala, « هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته » C'est lui qui fait descendre la pluie après qu'ils en aient désespéré et il répand sa miséricorde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui choisit de faire descendre la pluie de par sa volonté et sa sagesse. Il sait où elle descend, comment elle va descendre, quelle terre va recevoir de la pluie et quelle terre va en être privée. Et tout ceci fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui croit que la descente de la pluie, elle est liée à l'apparition ou la disparition d'une étoile. Alors cette croyance, elle relève du polythéisme. Et il est obligatoire à la personne de se repentir de celle-ci, de la délaisser et d'avoir la ferme conviction que la descente de la pluie provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les étoiles n'ont aucune influence en cela. Enfin, la quatrième chose qu'il a mentionnée ici, c'est le fait de se lamenter sur les morts. Et ce qui est visé ici par les lamentations, c'est le fait d'élever la voix lorsqu'une personne meurt, et ce, en s'accablant et en ne faisant pas preuve de patience. Et cette forme de lamentation, elle fait partie des grands péchés. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala, « Celle qui se lamente ». Il a mentionné ici la femme, car les lamentations sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. « Celle qui se lamente et ne se repent pas avant sa mort, alors elle viendra au jour de la résurrection avec un vêtement de cuivre fondu et un vêtement de gale. » La gale, comme vous savez, c'est une maladie qui touche la peau. Donc cette maladie, elle recouvrira tout son corps et par-dessus cela, elle aura un vêtement de cuivre fondu. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc ce hadith, il nous prouve que les lamentations, elles font partie des grands péchés. Et ceci fait partie des préceptes des gens de la Jahiliya. Mais lorsque la personne est éprouvée par la mort d'un proche, ce qui lui incombe, c'est de faire preuve de patience et d'espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au fait de pleurer, parce que la personne est triste suite à la perte d'un proche, d'un ami ou autre, alors ceci ne fait pas partie des lamentations. Et cela ne rentre pas dans l'interdit, car la personne ne contrôle pas ses pleurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a pleuré à la mort de son fils Ibrahim. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, les yeux pleurent, le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce qui plaît au Seigneur. Et certes, nous sommes tristes de nous séparer de toi, ô Ibrahim. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Et il rapporte également dans un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah ne châtie pas en raison d'un œil qui pleure ou d'un cœur qui s'attriste, mais il châtie ou fait miséricorde à cause de cela, c'est-à-dire la langue. C'est-à-dire que si la personne, elle prononce avec sa langue des mots qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'elle est atteinte par une calamité ou une épreuve. Comme par exemple qu'elle dit « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Et que la personne, elle fait preuve de patience. Elle loue Allah subhanahu wa ta'ala et est reconnaissante envers lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala la pardonnera et lui fera miséricorde. Quant à celui qui se lamente, qui se plaint du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci, il encourt un châtiment douloureux et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc ces quatre choses que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnées ici et qui sont venues dans le hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont encore présentes aujourd'hui parmi les gens. Il est donc obligatoire pour toute personne qui se rend compte qu'elle est touchée par une de ces choses, de s'empresser de la délaisser et de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les points importants à souligner ici, il y a le fait que ce hadith, il nous démontre que ce n'est pas toute personne qui est touchée ou atteinte par un des préceptes, parmi les préceptes des gens de la Jahiliyyah, qui est forcément mécréante. Mais il y a certains préceptes qui relèvent de la mécréance majeure et d'autres préceptes qui sont moindres que cela. Mais quoi qu'il en soit, tous ces préceptes, ce sont des choses mauvaises. C'est pour cela que le musulman doit les délaisser et s'en écarter. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-mas'alatu al-hadiyatu wa-tis'un, inna ajalla fada'ilahum, al-baghyu, wa qad dhakar allahu fihi ma dhakar » Le 91e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliyyah, c'est le fait que la transgression faisait partie, selon eux, des plus nobles de leurs mérites. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné un certain nombre de choses à ce sujet, comme on va le voir à travers certains versets de son noble livre. Donc la transgression, ce qui est visé ici, c'est le fait de porter atteinte aux personnes, que ce soit en ce qui concerne leur sang, leur vie, ou alors leur bien ou leur honneur. Et les gens de la Jahiliyyah, ils considéraient la transgression et le fait de porter atteinte aux autres comme étant une chose méritoire. Et ils se vantaient de cela dans leurs poèmes ou leurs écrits. Comme on peut le voir aujourd'hui, chez certaines personnes qui se vantent d'avoir commis telle ou telle agression, ou d'avoir causé du tort à telle ou telle personne, et ceci fait partie des préceptes des gens de la Jahiliyyah. L'islam est donc venu interdire toute forme de transgression. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Dis, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes apparentes et secrètes, ainsi que le péché et l'agression sans droit. D'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'agression avec les turpitudes, mais aussi avec le polythéisme et le fait de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Ceci nous montre donc la gravité de ce péché, la gravité de porter atteinte à la vie ou au bien ou à l'honneur d'un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Inna Allah ya'muru bil'adli wal-ihsani wa ita'i dil-qurba wa yanha anil fahsha'i wal-munkari wal-baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkaroun » Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance, l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, le blâmable et l'agression. Et il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi lors du pèlerinage d'adieu, certes vos sangs, votre honneur et vos biens vous sont interdits, tout comme la sacralité de ce jour, en ce lieu et en ce mois. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc on voit que l'islam est venu pour mettre fin à l'injustice et à la transgression. Et il fait partie des choses les plus nobles qu'a ordonné l'islam, le fait de préserver la vie, de préserver la sacralité des biens et de préserver la sacralité de l'honneur. Et porter atteinte à une personne, physiquement, ou lui porter atteinte, moralement, en s'attaquant à son honneur, ou porter atteinte à ses biens, tout ceci fait partie des transgressions sur lesquelles étaient les gens de la Jahiliya et que l'islam est venu proscrire. Et si tu médites sur ces versets et ce hadith que l'on vient de citer, tu verras que le suivi de ces textes est une cause pour obtenir la sécurité dans les pays. Mais c'est aussi une cause pour que règne l'amour et la fraternité entre les musulmans. Et de mettre fin à ce désordre qui était présent chez les gens de la Jahiliya et que l'on observe encore aujourd'hui au sein de nombreuses sociétés qui se sont éloignées de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa législation. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-mas'alatu thaniyatu wa tis'un, inna ajala fada'ilahum, al-fakhru walau bihaqqin, fanuhiya anhu. » Le 92e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est qu'ils considéraient aussi, parmi les plus nobles de leur mérite, le fait de se vanter, même si c'est pour une chose réelle. Alors, ceci a été interdit. Donc les gens de la Jahiliya, ils avaient l'habitude de se vanter. Ils se vantaient par exemple de leurs actes, ou des actes de leurs ancêtres, et ceci a été interdit par l'islam. Et c'est car le fait de se vanter de ses œuvres, cela mène la personne à la vanité et à l'orgueil, ainsi qu'au mépris des autres. Et tout ceci est interdit dans notre noble religion. Et cela fait partie des agissements des gens de la Jahiliya. Le musulman, il ne fait pas partie de ces qualités qu'il se vante, car il a conscience qu'aussi nombreux soient les efforts qu'il prodigue, alors en réalité, il a de nombreux manquements. Car il sait qu'il n'a pas accompli tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a enjoint. Le droit d'Allah, mes frères, le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur ses serviteurs, c'est un droit immense. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint de nombreux devoirs envers ses créatures, comme les devoirs envers les parents, les devoirs envers les proches, les devoirs envers les voisins, et ainsi de suite. Tu as de nombreux devoirs envers de nombreuses personnes. Donc à partir du moment où tu as conscience de cela, tu te rends compte que tes œuvres sont minimes comparées au grand nombre de devoirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a enjoint. Donc comment la personne, en ayant conscience de cela, pourrait-elle se vanter d'avoir fait telle ou telle chose parmi les œuvres de bienfaisance ou parmi les œuvres de bien? En réalité, ce que tu as fait, ce n'est qu'une chose minime comparée à ce qui t'incombe. Il ne convient donc pas aux musulmans de se vanter d'avoir fait preuve de bienfaisance ou d'être venu en aide à une personne parmi les créatures. Mais pire encore, le fait de te vanter de tes œuvres que tu fais pour te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car ceci, comme on a dit, cela conduit à la vanité. Que la personne s'infatue de ses œuvres. Et ceci rend les œuvres de l'individu caduques. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. Il est donc obligatoire pour le musulman de toujours considérer que ses œuvres sont manquantes, et que quoi qu'il fasse, il n'en a pas fait assez en réalité. Ceci concerne ce qu'il y a entre lui et Allah, subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous doit être conscient de ses manquements, et il doit sans cesse faire des efforts pour se réformer et s'améliorer et aller de l'avant. Et de la même manière, en ce qui concerne tes relations avec les créatures, tu dois te considérer comme ayant des manquements. Et si tu fais cela, cela te permettra d'être humble vis-à-vis des gens et de ne pas faire preuve d'orgueil et de ne pas les mépriser. Et si tu agis ainsi, cela va t'aider à être encore plus bienfaisant envers les gens. En effet, si la personne, elle pense qu'elle a déjà fait beaucoup, alors elle ne va pas augmenter le bien. Elle va se contenter de la moindre œuvre qu'elle accomplit. Alors que si la personne fait preuve d'humilité, considère ses manquements, prend en considération que le fait que ce qu'elle fait, ce n'est toujours pas assez, alors ceci va l'amener à l'humilité, bi'idhnillahi ta'ala. Et cela va l'aider à augmenter ses œuvres de bien, à multiplier la bienfaisance envers les gens. Car comme on a dit, celui qui pense qu'il est parfait et qu'il a accompli tous ses devoirs vis-à-vis des gens, qu'il a accompli l'obligatoire, alors il va cesser de faire le bien. Contrairement à celui qui fait preuve d'humilité et qui est conscient de ses manquements, celui-là va toujours essayer de s'améliorer et d'améliorer ses œuvres qu'il accomplit pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais également ses œuvres et ses relations qu'il a avec les gens. Donc en résumé, le fait de se vanter, ceci fait partie des caractéristiques desquelles le musulman doit s'éloigner, car cela fait partie des caractéristiques des gens de la jahiliya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mentionné qu'il était le maître des enfants d'Adam, il a dit après cela, « Wala fakhr », c'est-à-dire « je ne dis pas cela pour me vanter ». Malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas d'égal parmi les créatures. Malgré cela, il a dit, et je ne dis pas cela pour me vanter. Il a rejeté la vantardise et ne l'a pas approuvé pour lui-même. Mais il n'a fait cela que dans le but de proclamer le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Et ceci est une forme de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et non pas une forme de vantardise. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a dit, المسألة الثالثة والتسعون أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لابد منه عندهم فذكر الله فيه ما ذكر. Le 93e précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait qu'ils considéraient qu'il est indispensable pour l'homme de se fanatiser pour son groupe sur la vérité comme sur le faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc interdit cela et a mentionné des choses à ce sujet, comme on va le voir à travers certains versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a vu précédemment que le fanatisme, ce qui est blâmable en celui-ci, c'est le fait de persister sur le faux tout en ayant connaissance de sa fausseté. Et ce qui pousse la personne à faire cela, en règle générale, c'est l'orgueil, l'obstination et le fait de donner victoire ou de secourir une personne, une tribu ou un groupe, que ce soit sur la vérité ou que ce soit sur le faux. Et cette forme de fanatisme fait partie des préceptes des gens de la jahiliya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc interdit cela. Et il a ordonné l'équité. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَجَرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا. Et que la haine envers un peuple ne vous pousse pas à ne pas être équitable. C'est-à-dire que le fait de détester une personne, ou le fait de détester un peuple, ou le fait de détester un groupe, cela ne doit pas te pousser à être injuste envers eux. Mais tu dois faire preuve d'équité avec ton ami comme avec ton ennemi. Car l'équité, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée même envers tes ennemis. Et pas seulement envers les gens que tu aimes et envers tes amis. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, « Ya ayyuha alladhina amanu, ô les croyants, kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah, observez strictement la justice, et soyez des témoins véridiques pour Allah. » Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, « Walau ala anfusikum, ou il walidain wal aqrabin. » Même si c'est contre vous-même, contre vos pères et mères, ou vos proches parents. Observez la justice. Soyez des témoins véridiques. Ne cache pas la vérité sous prétexte que tu ne veux pas t'opposer à un ami ou autre. Mais sois un témoin véridique. Si une personne parmi tes proches a fait une erreur, tu la conseilles. Tu lui indiques la vérité. Et tu ne laisses pas passer cette erreur sous prétexte que c'est un de tes proches. Il y a des personnes aujourd'hui, lorsqu'ils voient un musulman faire une erreur à la mosquée par exemple, ils sont intransigeants avec lui. Il ne va laisser passer aucune erreur. Par exemple, il va voir un musulman faire une erreur dans sa prière, commettre une chose qui n'est pas légiférée. Alors il va le conseiller peut-être avec dureté et il va être intransigeant avec lui. Ensuite, il va rentrer chez lui. Il va voir ses parents qui commettent les mêmes erreurs dans leur prière. Mais il se tait. Il ne dit rien. Il ne les conseille pas. Pourquoi? Car ce sont ses parents. Il va voir ses frères et sœurs commettre des erreurs, commettre des péchés. Il ne leur dit rien. Car ce sont ses proches. Ceci n'est pas convenable. Le musulman, il doit être juste dans ses jugements. Le faux, il reste faux même si c'est un de tes proches qui le commet. Et la vérité, elle est vérité même si c'est un de tes ennemis qui la prononce. Et pour juger entre le faux et la vérité, comme on a dit, on revient au texte du Coran et de la Sunna. Ce qui est conforme au texte du Coran et de la Sunna, ceci est la vérité, on se doit de l'accepter, même si elle provient de notre pire ennemi. Et ce qui est faux, ce qui s'oppose au texte du Coran et de la Sunna, alors ceci, cela doit être rejeté, même si cela provient de nos plus proches parents. Ce qui nous permet d'évaluer les choses, c'est seulement la conformité ou non avec la vérité. Tu ne prends pas en considération ta proximité ou ton lien avec la personne, avec l'auteur de cet acte, l'auteur de cette parole ou ainsi de suite. Tu ne regardes pas si l'auteur de la parole provient de ton pays, s'il est de ta famille, s'il vient de la même ville que toi ou autre, mais tu regardes si sa parole est conforme au texte du livre et de la sunna. Et c'est ainsi que tu évalues les choses. Et si c'est une erreur, tu la condamnes, même si cette personne est un de tes proches, qu'il vient de ton pays, qu'il vient de ta ville, et ainsi de suite. Il est donc obligatoire pour la personne de faire preuve de justice, envers elle-même tout d'abord, mais aussi avec ses proches, avec ses amis et avec ses ennemis. Car l'injustice, elle est interdite en islam, même envers un mécréant. Tu n'as pas à être injuste envers lui. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, lorsqu'ils parlent des gens du faux, des gens de l'innovation ou des gens de la mécréance, on observe dans leur discours certains excès dans les paroles, certaines injustices dans les propos. Et ceci n'est pas permis et s'oppose à notre noble législation. Quant aux gens de la Jahiliya, alors eux, ils se fanatisaient pour leur peuple. Même si les leurs étaient des grands oppresseurs, alors ils les soutenaient. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc ordonné de nous opposer à eux et de prononcer la vérité et d'observer la justice, même si cela est à l'encontre de nos proches, même si cela est à l'encontre de nos amis. Et de la même manière, tu dois te comporter avec tes ennemis. Tu fais preuve de justice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, « Secours ton frère, qu'il soit injuste ou opprimé. » C'est-à-dire que ce soit lui qui commette l'injustice ou que ce soit lui qui la subisse. Alors ils lui ont dit « Ô messager d'Allah, s'il subit une injustice, nous le secourons. Mais comment pouvons-nous le secourir si c'est lui l'injuste ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est que tu lui empêches de commettre cette injustice. Ceci est la manière de le secourir. » C'est-à-dire que l'injuste, la manière de le secourir est de l'empêcher de commettre son injustice. Tu repousses son injustice et tu l'aides à cesser cette injustice. Et ceci est une manière de le secourir. Quant au fait que tu le laisses commettre son injustice, que tu te taises sur ses transgressions et que tu ne dises rien à ce sujet, alors en réalité en faisant cela, tu l'as abandonné et tu l'as trahi. Tu ne l'as pas secouru. Et certaines personnes y pensent qu'il est préférable, lorsqu'ils voient un injuste commettre une injustice, de ne rien dire à son sujet, le laisse faire. On ne dit rien, on le laisse, car c'est notre cheikh, car il fait partie de notre groupe, car il fait partie de notre clan, car il vient de notre pays, ainsi de suite. Il se taise sur ses injustices. Il pense que ceci est un bon comportement envers lui. Le bon comportement envers lui, c'est de s'opposer à son injustice et de l'aider à mettre fin à cette injustice. Ensuite, le cheikh, il dit, rahimahullah, « Al-mas'alatu al-rabi'atu al-tis'un, anna min dinihim, akhdhu al-rajuli bi jarimati ghayrihi, fa'anzal Allah ta'ala, wa la taziru waziratun wizra ukhra. » Le 94e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est qu'il faisait partie de leur religion de sanctionner l'homme à cause du crime d'autrui. Allah subhanahu wa ta'ala a alors révélé à ce sujet, selon le sens rapproché, personne ne portera le fardeau d'autrui. Il faisait donc partie des préceptes des gens de la Jahiliya de reprocher à une personne ou de la sanctionner à cause des méfaits causés par autrui. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam ce qui s'oppose à ce précepte, et il a dit subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Personne ne portera le fardeau d'autrui. C'est-à-dire que si une personne commet une injustice, alors il n'est pas possible de sanctionner et de blâmer autre que l'auteur de cette injustice. Même s'il fait partie de ses proches, que c'est son cousin, son père, son frère, son fils ou autre. Mais la seule personne qui peut être sanctionnée, c'est l'auteur de l'injustice. Quant à celui qui est innocent, qui n'a commis aucun crime, aucune injustice, aucun délit, elle n'aurait pas permis de le sanctionner à cause des méfaits causés par autrui. Car le fait de sanctionner une personne à cause des méfaits causés par autre que lui, ceci est une forme d'injustice qui n'est pas approuvée par notre noble religion. Aujourd'hui, on trouve dans certains endroits, dans certains pays, si une personne agresse une personne d'une autre tribu, et que l'agresseur est une personne qui n'a pas d'importance, c'est-à-dire qui n'a pas de rang au sein de sa tribu. Alors pour se venger, ils ne vont pas se contenter de s'en prendre à lui, mais ils vont chercher une personne noble parmi les gens de sa tribu, et ce afin de se venger. Et ceci fait partie des agissements des gens de la Jahiliya. Et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui chez nombre de jeunes affiliés à la religion de l'islam. Tu vas trouver un groupe de personnes se disputer avec un autre groupe d'une autre ville, ou d'un autre quartier. Alors qu'est-ce qui va se produire dès qu'ils vont croiser une personne originaire de cette ville, originaire de ce quartier? Ils vont s'en prendre à lui et l'agresser. Alors que lui, il n'a rien fait. Simplement, car il est originaire de la même ville ou du même quartier, de ceux avec qui ils sont en conflit. Ceci est une grave injustice. Ce n'est pas une chose insignifiante. Le musulman, il doit être conscient de cela. Comme on a dit, ceci relève, à la base, d'un manque de concrétisation du principe de l'alliance et du désaveu. Car l'alliance et le désaveu en islam, il n'est basé que sur la religion. Il n'y a pas d'alliance et de désaveu en fonction de ta ville, en fonction de ton département ou en fonction de ton quartier, en fonction de ton pays d'origine ou autre. Tout ceci ne fait pas partie de notre religion. L'alliance et le désaveu, ils s'en font en fonction de ton attachement aux règles de la religion. Et comme on a vu dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Inna akramakum indallahi atqakum » Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela, à ne pas tomber dans cette erreur faisant partie des préceptes des gens de la jahiliya. De la même manière, on observe aujourd'hui chez certaines personnes s'affiliant à la sunna, des gens reprochaient une erreur à tout un groupe de personnes sous prétexte qu'ils collaborent ensemble dans certains travaux de la prédication. Si quelqu'un fait une erreur, cette erreur, elle ne doit être reprochée qu'à l'auteur de l'erreur. Et il fait partie de l'injustice d'attribuer une erreur commise par une personne à tout un groupe de gens. Et ceci est semblable à ce qui est mentionné dans ce précepte, qui fait partie des préceptes des gens de la Jahiliya. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-mas'alatu al-khamisatu wa-tis'un ta'yiru al-rajuli bima fi ghayrihi » فقال صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. Le 95e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait de dénigrer un homme en raison d'une chose présente chez autrui. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit à ce sujet, le dénigrer-tu en raison de sa mère, tu es un homme en qui il y a de la Jahiliya. Donc comme on a dit, il n'est pas permis de dénigrer une personne en raison d'une chose présente chez une autre personne, comme le fait de dénigrer une personne à cause des erreurs commises par ses ancêtres, et ainsi de suite. Ceci fait partie des préceptes des gens de la Jahiliya. Mais le musulman, il doit être juste dans ses propos, et si une personne doit être blâmée, alors elle n'est blâmée que pour les choses qu'elle a elle-même commises, et non pas pour les méfaits d'autrui, ni pour les erreurs d'autrui, mais elle est blâmée pour ses propres œuvres, ses propres manquements, ses propres péchés, et elle ne peut pas porter le fardeau d'autrui. Et ce hadith, il nous prouve également qu'il est possible qu'une personne se caractérise par une des caractéristiques des gens de la Jahiliya sans être mécréante. Car comme on l'a dit, il y a certains préceptes qui relèvent de la mécréance et d'autres qui sont moindres que cela. Mais malgré tout, il incombe aux musulmans de tous les délaisser. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-mas'alatu s-sadisatu wa-tis'un » الافتخار بولاية البيت فذمهم الله تعالى بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. Le 96e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait qu'ils se vantaient d'avoir autorité sur la maison, c'est-à-dire la maison sacrée. Allah subhanahu wa ta'ala les a donc blâmés par sa parole, selon le sens rapproché, s'enflant d'orgueil, c'est-à-dire du fait qu'ils prenaient en charge la maison sacrée et voulaient dénigrer au cours de vos veillées. Il fait donc partie des préceptes des gens de la Jahiliya qu'ils se vantaient de prendre en charge la maison sacrée. Et ils se vantaient également d'organiser le pèlerinage, d'accueillir les pèlerins, de les abreuver, ainsi de suite. Ils se vantaient de cela auprès des autres tribus arabes. Ceci fait donc partie des préceptes des gens de la Jahiliya. Car le fait de prendre en charge la maison sacrée, ou de manière générale, les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les mosquées, ceci est une adoration, et le musulman, il n'est pas permis pour lui de se vanter d'une œuvre qu'il a accomplie pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne se vante pas de nos adorations. Toute œuvre que tu as accomplie pour te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu dois prendre garde à la vouer exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala, et à ne pas rechercher à travers celle-ci les éloges ou les compliments des gens. Et tu ne dois pas te vanter de cette œuvre, mais tu dois plutôt louer Allah, subhanahu wa ta'ala, qui t'a permis d'accomplir cette œuvre. Et ce, sans t'enorgueillir et sans te vanter. Et ceci est présent aujourd'hui chez nombre de personnes parmi ceux qui ont des responsabilités au sein des mosquées, par exemple. Alors, il va se vanter auprès des gens d'être le directeur de telle mosquée, le directeur de tel centre, et ainsi de suite. Ceci s'oppose à la sincérité, le culte exclusif qui doit être voué à Allah, subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de prendre en charge une mosquée, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de faire le ménage dans une mosquée, de la nettoyer, ou alors de réparer dans cette mosquée quelque chose qui était cassé, et ainsi de suite parmi les œuvres de bien que le musulman peut accomplir afin de prendre soin des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas te vanter de ces œuvres, mais ces œuvres, tu dois te rappeler qu'elles doivent être vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois purifier ton cœur de toute forme d'ostentation et de toute forme de recherche d'éloge ou de compliment des gens. Et de la même manière, tu dois être conscient que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait permis d'accomplir cette œuvre, ceci est une grâce qu'il n'a pas accordée à tous ses serviteurs. Donc tu dois être conscient que ceci est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Et en aucun cas une raison de te vanter. Car le fait de se vanter de cela, cela fait partie, comme on a dit, des préceptes des gens de la Jahiliya. Donc il se vantait de s'occuper de la maison sacrée, mais il ne croyait pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il ne croyait pas au livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Mais il se vantait de ce qu'il faisait pour la maison sacrée, et il pensait que cela les dispensait du suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, « Aja'altum » سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. Faites-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée une chose comparable au mérite de celui qui croit en Allah et au jour dernier et lutte dans le sentier d'Allah. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ. Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah. Il n'y a pas de doute que le fait de donner à boire aux pèlerins, d'entretenir la mosquée sacrée, ceci fait partie des bonnes œuvres par lesquelles la personne doit espérer se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elle ne doit pas s'en vanter, et encore moins penser que ceci la dispense des autres œuvres de bien, et parmi les œuvres de bien les plus importantes, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sur quoi étaient les gens de la Jahiliya, ceci est encore présent aujourd'hui chez certains mécréants, parmi ceux par exemple qui font des efforts dans les œuvres de bien, les œuvres de bienfaisance, les œuvres de charité et ainsi de suite. Il y en a certains, lorsque tu les appelles à l'islam, ils vont te dire « Mais moi je fais beaucoup de bien. Si cela ne suffit pas, je ne peux rien faire d'autre. » Sous prétexte qu'il vient en aide aux pauvres, aux nécessiteux et ainsi de suite. Ceci certes est une œuvre de bien, mais cela ne dispense pas de ce qui est plus important, qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et la foi en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même manière, le musulman, il doit être conscient que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait facilité une œuvre de bien, cela ne le dispense pas des autres œuvres de bien. Et j'insiste sur ce point, car on voit aujourd'hui certaines personnes parmi les musulmans qui, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite une œuvre, c'est comme s'ils se contentaient de celle-ci et ne faisaient plus d'efforts autre que cela. À titre d'exemple, on observe ce comportement chez certains de nos frères muhajirin, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la hijra et leur a permis de s'installer en terre d'islam. Il n'y a pas de doute que ceci fait partie des plus nobles adorations, desquelles le musulman espère une grande récompense auprès de son Seigneur. Toutefois, une fois que tu as accompli cette émigration, que tu as quitté la terre de mécréance pour une terre d'islam, tu ne dois pas penser que ceci te dispense des autres œuvres de bien. Tu ne dois pas penser que tu as atteint le sommet et qu'après cela il n'y a plus rien à faire. Mais tu dois continuer des efforts afin de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, tu ne dois pas rester dans l'ignorance, mais tu dois faire des efforts dans l'apprentissage de la science. Combien sont ceux qui vivent dans des pays musulmans depuis des années, mais qui n'ont fait encore aucun effort pour apprendre la langue arabe, qui ne font pas d'efforts dans l'apprentissage du Coran, qui ne font pas d'efforts dans les œuvres de bien? De la même manière, ceux qui ont connu la sunna, qui ont compris la voie de la droiture, tu ne dois pas penser que cela est suffisant. Mais tu dois persister sur ce chemin, être ferme sur celui-ci et continuer d'avancer sur celui-ci. Faire des efforts dans l'apprentissage de la science, faire des efforts dans l'apprentissage du Coran, de la langue arabe, faire des efforts dans les œuvres de bien, dans les œuvres d'adoration, la lecture du Coran, la prière de nuit, le jeûne et ainsi de suite. Donc le musulman, il ne doit pas penser, sous prétexte qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait facilité l'accomplissement d'une œuvre pieuse, que celle-ci le dispense de l'accomplissement d'autres œuvres pieuses. Mais notre objectif à tous, cela doit être de faire sans cesse des efforts pour se rapprocher toujours plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit « Al-mas'alatu s-sabi'atu wa t-tis'un, الافتخار بقونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله سبحانه وتعالى بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. Le 97e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait qu'ils se vantaient d'être de la descendance des prophètes. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sa parole, selon le sens rapproché, « Voilà une génération révolue, à elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. » Donc ceci fait partie des œuvres notamment des Banu Israël, qui se vantaient d'être de la descendance des prophètes, alayhimu salatu wassalam. Mais malgré cela, ils ne suivaient pas ces prophètes. Et notamment, le dernier des prophètes, qui est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il était obligatoire pour eux de suivre ce prophète. Quant au fait de dire qu'il faisait partie de la descendance des prophètes, en se contentant de cela, sans suivre les prophètes, alors ceci ne leur est d'aucune utilité auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, leur a répondu dans sa parole en disant, « Tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat, wa lakum ma kasabatum. » Voilà une génération révolue. À elle ce qu'elle a acquis, à eux leurs œuvres, et à vous ce que vous avez acquis. C'est-à-dire que l'homme, il est jugé pour ses propres œuvres à lui, et non pas pour les œuvres d'autrui. Ce n'est pas parce que ses ancêtres étaient pieux qu'il sera forcément pieux. Mais il doit lui aussi faire des efforts pour faire des œuvres pieuses, pour suivre le chemin de la piété. Donc les prophètes, alayhim salatu wassalam, ce sont les meilleurs des créatures. Malgré cela, ils ne peuvent en rien profiter à leur descendance si leur descendance ne les suit pas sur le droit chemin. Chacun aura ce qu'il a acquis comme œuvre. Donc de la même manière, toute personne qui se vante des œuvres de ses ancêtres, d'avoir des parents vertueux ou des parents qui font partie des gens de science et qui pensent que cela le dispense de faire des bonnes œuvres, comme ceux qui s'affilient aux gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui pensent que le simple fait de s'affilier à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam les dispense d'accomplir des œuvres pieuses. Alors ceci entre dans ce précepte qui fait partie des préceptes des gens de la Jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, lorsqu'il a réuni ses proches, il leur a dit, « Ô gens de Quraysh, achetez vos propres âmes, mais je ne peux rien pour vous auprès d'Allah. Ô Abbas, l'oncle paternel du messager d'Allah. Ô Safiya, la tante paternelle du messager d'Allah. « Je ne peux rien pour vous auprès d'Allah. » Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ô Fatima, fille de Muhammad, demande de mes biens ce que tu veux, mais je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. » Donc, on voit dans ce hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses plus proches parents qu'il ne peut rien pour eux auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que s'ils ne le suivent pas sur la voie de la vérité, qu'ils n'adoptent pas l'islam comme religion, alors il ne peut rien pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour de la résurrection, personne ne pourra rien en faveur d'autrui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans son noble livre, يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِذِ لِلَّهِ. Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre. Et ce jour-là, le commandement sera Allah. Donc le musulman ne doit pas s'appuyer sur la piété de ses ancêtres, la piété de ses parents, la piété de ses grands-parents, ou le fait qu'il ait une bonne lignée. Mais il doit lui-même accomplir des œuvres de bien afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, car chacun sera rétribué en fonction de ses propres œuvres. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-mas'alatu thaminatu wa tis'un, al-iftikharu bis-sana'i'. » Le 98e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait de se vanter de leur profession, comme le faisait ceux qui pratiquaient les deux voyages, c'est-à-dire les deux voyages commerciaux, en se pensant supérieurs aux agriculteurs. Donc le fait de se vanter de sa profession, que le commerçant se vante de son commerce en se pensant supérieur à l'artisan, ou supérieur au menuisier ou au forgeron, ou alors que l'employé se vante de son emploi à ceux qui sont moindres que lui et qui ont un poste moins important parmi les travailleurs. Tout ceci fait partie du mépris et des formes de vantardise qui sont interdites dans notre noble religion. Car le musulman, il ne doit pas mépriser ceux qui sont moindres que lui. Et même de manière générale, le musulman, il ne lui convient pas de mépriser qui que ce soit. Alors que dire du fait de mépriser les musulmans à cause de leur métier ou de leur profession? Ceci fait partie des préceptes des gens de la Jahiliya.
comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au sujet de Quraysh. Ils avaient deux grands voyages commerciaux, un qu'ils faisaient en hiver, en direction du Yémen, et l'autre qu'ils faisaient en été, en direction du Cham. Donc ils se rendaient là-bas pour le commerce. Ils se vantaient auprès de ceux qui travaillaient dans les champs ou autres, en les méprisant et en les considérant moindres qu'eux. Donc toute personne qui se vante de sa profession, qui se vante de son emploi, qui s'enorgueillit et prit de vanité à cause de cela, et qui méprise les autres, comme on le voit aujourd'hui, certaines personnes qui vont mépriser les gens qui occupent certains emplois. Ah, celui-ci, il fait le ménage. Ah, celui-ci, il est caissier. Et ainsi de suite. Ou pire encore, ceux qui vont mépriser par exemple les imams de mosquée. Comment cette fonction pourrait-elle être méprisée? Parce que tu sais qu'elle a été occupée par le meilleur des hommes, qui est notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc de manière générale, le musulman, il ne doit pas mépriser les gens. Et entre dans cela le fait de mépriser les gens pour leur métier. En pensant que ceci est un métier qui n'est pas convenable, en pensant que ceci est un métier humiliant, et ainsi de suite. Tout ceci fait partie des préceptes, parmi les préceptes des gens de la jahiliya. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-mas'alatu at-tasi'atu wat-tis'un, 'azamatu ad-dunya fi qulubihim, ka qawlihim, wa qalu lawla nuzzila hadha al-Qur'an 'ala rajulin min al-qaryatayn 'azim. » Le 99e précepte, parmi les préceptes des gens de la jahiliya, c'est le fait que ce bas monde occupait une place importante dans leur cœur. Et ce, d'après ce qu'ils ont dit, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un homme important de l'une des deux cités, c'est-à-dire Mecca et Taïf? Donc il fait partie des préceptes des gens de la jahiliya que ce bas monde occupait une place importante dans leur cœur. Cela les a menés à mépriser celui qui n'avait pas une place importante dans ce bas monde. Comme on l'a vu, ils méprisaient certains métiers, et ce car leur cœur était attaché à ce bas monde. Et c'est pour cela qu'ils ont considéré que même le message, il était obligatoire qu'il soit porté par des gens riches, et qu'il ne devait pas être porté par des pauvres. Alors il disait, Allah n'a trouvé que l'orphelin dont s'occupe Abu Talib. C'est-à-dire qu'il considérait notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme une personne qui n'était pas digne de porter ce message. Wal'iyadu billah. Ils ont donc dit, لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرِيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un homme important de l'une des deux cités, c'est-à-dire un homme important de Mecca ou un homme important de Taif, une ville à proximité de la Mecque. Et il visait par cela Al-Walid ibn al-Mughira à Mecca, ou alors Habib ibn Amr al-Thaqafi, et d'autres ont dit Urwa ibn Mas'ud à Taif. Et il disait, si le message avait été envoyé à un de ces deux hommes, alors ceci aurait été plus convenable. Quant au fait que ce message soit porté par un homme orphelin et pauvre qui est Mohammed, alors ceci n'est pas convenable. Telle était la manière de penser et de voir les choses chez les gens de la jahiliya. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donc répondu et a dit « Ahum yaqsimuna rahmat rabbik » Est-ce que ce sont eux qui partagent la miséricorde de ton Seigneur? C'est-à-dire comment peuvent-ils se mêler des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisies? Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah sait mieux à qui il envoie son message, qui est digne de recevoir son message. Donc eux, étant donné la place importante qu'occupait ce bas monde dans leur cœur, ils n'ont pas accepté que le message soit envoyé à un homme orphelin et un homme pauvre. Mais ils considéraient que ce message aurait dû être porté par un homme important d'une des deux grandes cités. Ils ont donc fait par cela une sorte d'objection au choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est le 100e précepte parmi les préceptes de la jahiliya que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné lorsqu'il a dit Al-mas'alatul mi'a at-tahakkumu 'ala Allah kama fil ayati as-sabiqa. Le 100e précepte parmi les préceptes des gens de la jahiliya, c'est le fait de faire objection à Allah subhanahu wa ta'ala comme dans le verset que l'on vient de citer. Donc ils ont fait objection au choix qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'envoyer son message à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit pourquoi ce message n'a pas été envoyé à un homme important d'une des deux cités. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala ne savait pas qui convenait pour recevoir son message. Et qu'eux le savaient mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que ceci est une forme d'objection à Allah subhanahu wa ta'ala et que cela est d'une grande gravité. Et de la même manière, agissent aujourd'hui ceux qui s'opposent à nombre de versets et nombre de hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui font objection à certains jugements parmi les jugements de l'islam. et qui disent pourquoi Allah a légiféré cela? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé tel ou tel jugement et ainsi de suite? Tout ceci fait partie des choses qui ont été héritées des gens de la Jahiliya. Quant aux musulmans, ils doivent se soumettre complètement aux textes du Coran et de la Sunna. Il ne fait pas objection aux ordres d'Allah, ni aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne les devance pas. Se soumettant à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Ya ayyuhal ladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli. » « Oh, vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. » Donc, les croyants, il ne faut pas objection aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni aux ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont une foi complète à tout ce qui a été révélé dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à tout ce qui est rapporté de façon authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils font les efforts pour mettre cela en pratique. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.